Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania dédié au syndrome de l'imposteur, un sujet qui va certainement parler à bon nombre d'entre vous. Et pour répondre aux nombreuses questions que vous pouvez peut-être vous poser ou que les entrepreneurs autour de vous se posent, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amélie De Driver, assistante virtuelle spécialisée en périnatalité et slasheuse. Hello Amélie, comment vas-tu?
Bonjour Adriana, mais ça va bien, merci. Je suis très contente d'être ici.
Le plaisir est partagé. Je suis heureuse que tu te sois joint à nous aujourd'hui pour aborder une thématique qui n'est pas simple à gérer quand on se lance dans l'entrepreneuriat et même au fil de son parcours entrepreneurial. L'épisode aujourd'hui que nous allons aborder, c'est les trois leviers à actionner pour sortir du syndrome de l'imposteur.
Oui, c'est un grand sujet, le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il nous quitte un jour, ce syndrome? Ça, c'est une grande question déjà.
On va tenter de voir si on peut apporter une réponse à ce sujet précisément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi? Peux-tu te présenter en quelques mots?
Oui, donc comme on l'a dit, je m'appelle Amélie De Driver, je suis assistante virtuelle. Je m'adresse essentiellement aux professionnels de la périnatalité et de la parentalité pour les aider à créer et lancer leur propre podcast, mais je fais aussi d'autres tâches d'assistana. Je suis slasheuse. Alors slasheuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir de multiples activités, des passions différentes et qui a besoin de plusieurs choses pour pouvoir s'épanouir pleinement. Donc en parallèle de l'assistana virtuelle, je suis aussi maquilleuse pour enfants et je transpose les techniques de maquillage pour enfants en belly painting, donc c'est le maquillage du ventre des futures mamans. J'aime beaucoup transmettre et donc je transmets les connaissances de face painting, de maquillage pour enfants à des doulas, des accompagnantes périnatales pour qu'elles puissent elles-mêmes créer des belly paintings. Et dès que j'ai l'occasion de découvrir de nouvelles choses et d'explorer de nouveaux univers, et ben j'y vais.
C'est passionnant, Amélie. Et je reviens sur le terme slasheuse. Je t'avouerai que c'est suite à ta rencontre que j'ai découvert ce terme qui était pour moi totalement inconnu. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'être slasheur ou slasheuse aujourd'hui, c'est être multipotentiel?
Il y a des nuances à apporter, je pense, mais je suis pas une spécialiste de la multipotentialité ou du slash. Multipotentiel, c'est vraiment la capacité à s'intéresser à de nombreux sujets. Parfois, on s'ennuie très vite parce qu'en fait, on a fait le tour du sujet et puis on a envie de passer à autre chose. Et donc, ça fait partie de ce profil-là. Et en même temps, ça permet de découvrir mais plein de choses. C'est ça qui est génial. Et donc, slasheuse, on peut ne pas être multipotentiel, mais être slasheur parce que, par exemple, on va avoir une activité professionnelle salariée et puis on va avoir une entreprise en side business et donc développer une activité en parallèle. Et le fait d'avoir déjà deux activités distinctes, bah, c'est être slasheur.
Je te remercie en tout cas pour ce partage parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, auditeurs. On va dire que ce qu'Amélie vient de nous apporter, ça peut permettre certainement à pas mal d'entre vous de vous reconnaître et de vous dire c'est ok de partir dans plusieurs voies différentes, d'explorer plusieurs choses en même temps.
Ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est une gymnastique et ça nécessite de s'autodiscipliner parce que bah, justement, il ne faut pas que ça parte trop dans tous les sens. Il faut réussir à trouver un fil conducteur et ne pas s'épuiser en allant dans de nombreuses directions. Pour certaines choses, il faut réussir à recentrer. Et c'est la raison pour laquelle d'assistante virtuelle, je suis devenue assistante virtuelle spécialisée en podcast parce que j'avais besoin de recentrer mon activité. Il y avait trop de possibilités et je me perdais avec toutes les possibilités de l'assistanat virtuel.
de ce que tu m'évoques, c'est savoir utiliser son énergie, quelque part presque en venant semer des graines d'énergie dans ses projets. C'est peut-être un moyen de pouvoir utiliser son énergie de façon efficace sur plusieurs projets en même temps, en la canalisant.
Ouais, c'est ça. Mais ça nécessite une gymnastique et parfois, ben, il faut aussi accepter d'être accompagné sur ce chemin-là parce que se découvrir slasher ou multipotentiel, en fait, c'est pas encore quelque chose de très commun. Peut-être que plein de monde va se reconnaître là-dedans finalement. Moi, j'ai découvert ça il y a peu et le fait de savoir que il existe des multipotentiels, il existe des slashers et c'est pas quelque chose d'anormal, ça m'a vachement rassurée.
Et ça fait du bien d'entendre qu'effectivement, quand on a ce ressenti, c'est OK.
Ouais, c'est possible. Et c'est possible de créer une entreprise tout en ayant des idées variées, des envies variées. C'est possible quand même de réussir à construire quelque chose.
Par rapport à ta création d'entreprise, quel a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat?
J'ai toujours une activité salariée, 3 jours par semaine. Et donc, je suis salariée dans la même entreprise depuis 2003. Donc, ça commence à faire un bout. Hein. Et en fait, j'ai fait vraiment différents postes dans l'entreprise et différents lieux, différents services. Mais déjà, au bout de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir fait déjà un petit peu le tour. Donc, à l'époque, j'avais déjà testé une activité alors en toilettage canin. Et bon, ça n'a pas duré longtemps. Après, j'ai eu mes enfants, tout ça. Donc, je suis retournée dans le monde du salariat pour être bien rassurée. J'ai changé de poste pour avoir un poste d'encadrement où ça a été très, très dur pour moi parce qu'en fait, j'avais pas le profil attendu, je pense. Trop dans l'accompagnement et peut-être pas assez dans la mesure des performances. Ça m'a pas convenu du tout et ça a été une période très, très difficile. J'ai découvert à cette époque-là le maquillage pour enfants à la kermesse de l'école de mes enfants, tout simplement. Et j'ai trouvé ça génial. Du coup, j'ai demandé à l'équipe qui était en place, est-ce que l'année prochaine, je peux faire ça avec vous? Ils m'ont dit oui. Pendant un an, je me suis préparée à cet événement parce que j'aime bien... Enfin, ouais, j'ai des petites peurs, des choses comme ça, et j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, du coup, je me suis formée pendant un an. Du coup, j'ai pu faire de jolis maquillages à la kermesse suivante. De là, on m'a demandé si je voulais aller faire des anniversaires, des choses comme ça. Je dis, bon, OK, j'ai de la demande. Je vais créer mon auto-entreprise sur ce sujet-là. Un petit peu en dilettante, on va dire, quoi, parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est plus une passion, quoi. Et donc, ça, c'est mon fil conducteur. C'est quelque chose que j'ai jamais lâché. Mais j'avais du mal à me dire que j'allais pouvoir vivre de cette activité. Je commence à changer d'avis, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je me suis dit, bon, OK, je laisse la porte ouverte aux opportunités. En parallèle, je m'étais beaucoup intéressée à tout ce qui était maternage par rapport aux enfants. J'avais appris beaucoup de choses. Je me suis formée au portage physiologique des bébés, par exemple. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont renvoyé le fait que j'étais la seule personne à qui ils pouvaient s'adresser, à qui ils pouvaient raconter certaines choses. C'était très puissant. Un jour, l'une d'entre elles m'a dit « Mais tu sais, Amélie, tu es ma doula. » « Tu sais quoi une doula ?» Je suis allée voir sur Internet, j'ai regardé la définition de doula ou accompagnante périnatale et en fait, j'avais la posture d'une accompagnante périnatale, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'écoute et dans l'accompagnement pour aider les parents dans leur quotidien, de les soulager dans leur quotidien et faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible cette période de transition qui est parfois un petit peu chaotique. Devenir parent, c'est pas forcément facile. Donc, je me suis passionnée aussi pour ça. J'ai suivi une formation d'accompagnante périnatale. J'ai développé pendant 2 ans, j'ai essayé de développer mon activité, mais je me suis un petit peu essoufflée. J'ai pas réussi à obtenir le résultat que j'en attendais. Et peut-être que il y a quelque chose au niveau du mental qui joue aussi sur la réussite, oser se mettre en avant, oser parler de son activité, oser parler de soi. C'est pas quelque chose de très facile au départ. Alors peut-être ça s'entend pas là comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé pour moi au départ.
Est-ce qu'à cette époque, Amélie, en regard de tout ce que tu viens de nous évoquer, durant justement tous ces retours positifs qu'on te partageait, est-ce que le syndrome de l'imposteur s'est manifesté?
Oui, mais il est là très très souvent le syndrome de l'imposteur. Je passe beaucoup de temps à me poser des questions sur ma légitimité, sur mes compétences, et finalement j'ai toujours des retours très positifs. Mais sauf que il y a toujours cette petite voix là qui est derrière en train de te dire mais t'es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas réussir, etc. Donc il y a eu ce moment où j'ai pas réussi à surmonter ça et où je me suis dit bon OK, Ne va pas t'épuiser, ne va pas te faire un burn-out avec ça. Laisse la porte ouverte. Si des accompagnements se présentent, eh ben c'est génial, tu les prends. Si ça se présente pas, c'est pas grave. Tu vas trouver autre chose parce que bah, tu as besoin de faire autre chose que ton activité salariée. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais utiliser, ce que j'avais développé comme compétences dans mes différents business et que je pouvais utiliser et mettre au service d'autres personnes. Et pour boucler avec la périnatalité, je me suis dit, ben, je vais travailler avec des acteurs de la périnatalité, avec des accompagnantes, avec des doulas, parce que j'ai envie de les aider à ce qu'elles puissent vraiment percer dans leur business et donc leur apporter mon soutien. Ce sera ma contribution à l'accompagnement périnatal. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir assistante virtuelle.
On peut considérer dans ce cas-là que tu as trouvé ton moyen pour que le syndrome de l'imposteur te lâche la grappe.
Ben oui, il fallait que je trouve une solution. Là, pour le coup, je me dis que ok, ouais, j'ai des compétences valables pour assister les autres professionnels de la parentalité. Donc, ben ouais, je les utilise.
En ce qui concerne les trois leviers à actionner pour justement sortir du syndrome de l'imposteur, quel serait le premier levier dont les auditeurs pourraient s'inspirer pour désamorcer le syndrome de l'imposteur?
Je pense qu'en fait, il faut essayer, quoi. Il faut essayer, il faut tester. De toute façon, on n'a rien à perdre et puis tout à gagner à essayer de nouvelles choses. Parce que tant qu'on n'essaye pas quelque chose, on ne peut pas savoir si ça fonctionne.
Donc, le premier levier à actionner serait essayer, dépasser sa peur de l'action et passer à l'action.
Il faut se lancer. Il n'y a pas le choix. Il faut y aller, sinon on ne fera jamais rien. Alors, je dirais que pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, même s'il est toujours un petit peu présent, mais pour lutter contre lui, quand on démarre son activité, je pense que il faut vraiment bien travailler sur ses fondations, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs fortes, quelle est notre vision, notre vie rêvée, notre vie idéale, pour vraiment créer un business qui s'aligne avec la vie qu'on a envie de mener. Parce que il faut pas non plus tomber dans une situation d'esclavage par rapport à son business. Généralement, quand on crée un business, c'est pour trouver de la liberté et de l'autonomie. Et donc, ben, si notre business il n'est pas au service de notre vision, ben, ça devient compliqué.
Et quelles sont les valeurs fortes qui t'animent ?
Pour moi, les valeurs fortes, c'est ben, il y a le respect, il y a la transmission. Donc, j'adore animer des formations ou des ateliers pour transmettre certaines compétences. Il y a la découverte également, pouvoir apprendre pour pouvoir transmettre justement encore plus. Et en valeur forte, il y a la créativité. Je le retrouve et dans le lancement et la gestion de podcast et dans le maquillage pour enfants ou la transmission du maquillage pour les belly painting.
C'est beau ce que tu nous partages, Amélie. En somme, c'est le savoir-faire qui mène vers le faire savoir.
Oh, dis donc, je n'aurais pas su mieux le dire.
Et le deuxième levier.
Pour ma part, j'ai besoin d'avoir du feedback, d'avoir des retours sur ce que je fais pour me rassurer. Bon, c'est aussi peut-être un petit besoin de reconnaissance, hein, je le cache pas. Mais alors, parfois, ça peut être un peu piquant parce que on peut avoir peur du retour qu'on va avoir. Mais en même temps, c'est essentiel pour pouvoir retravailler une offre ou un service qu'on veut proposer. Si on ne sait pas ce que les gens en pensent, si on ne sait pas s'ils sont satisfaits, on ne peut pas avancer. Et le fait d'avoir du feedback, en général, finalement, c'est plutôt positif. Donc, ben, le syndrome de l'imposteur, il peut s'éloigner un petit peu, quoi.
Effectivement, et si je peux me permettre de glisser un petit point, c'est que en général, ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est d'accepter, en tout cas, c'est ce que j'applique pour moi, c'est l'acceptation de la critique positive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il peut y avoir un point qui ne fonctionne pas, quelque chose à améliorer, c'est OK. Justement, c'est ce qui me permet de tirer des leçons de l'expérience pour ne pas reproduire certaines choses et s'améliorer au fil du temps. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, quand on a un petit peu peur d'avoir du feedback, on peut aussi, entre guillemets, cadrer le feedback, c'est-à-dire, justement, comme tu le disais, demander des critiques constructives. Et généralement, les gens, ils comprennent bien ce qu'on veut dire par là et nous apportent des éléments qui vont nous permettre de nous améliorer.
Et en ce qui concerne le troisième levier, quel serait-il ?
Eh ben, je dirais qu'il faut être bien accompagné parce que on est souvent, enfin voilà, on est des, pour beaucoup des solopreneurs. Enfin, je pense que les personnes qui vont écouter ici ce podcast sont principalement des solopreneurs. On a très vite la sensation d'être isolé et donc être bien accompagné et savoir qu'on n'est pas seul, c'est vraiment important. Et donc, je dirais qu'il existe l'IRA. Et l'IRA, c'est vraiment un moyen de ne pas se sentir seul dans son business, de créer du réseau et puis d'avancer avec d'autres entrepreneurs.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et l'IRA a un champ d'action d'une puissance extrêmement constructive et positive pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui rejoignent la synergie d'IRA.
Ouais. Et je dirais que, parce que bon, j'ai un vieux fond de timidité, et donc le réseautage, ça me fait un petit peu peur. Enfin, voilà, je ne suis pas hyper fan au départ. En fait, avec l'IRA, les contacts, ils se font vraiment simplement et de manière ludique. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans ce cadre-là, en tout cas pour moi, que peut-être sur d'autres structures de réseautage. Donc, c'est pas que du réseautage, l'IRA. C'est du développement, c'est de la co-création. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, en tout cas, c'est un accès au réseautage. Et ça permet de dédramatiser peut-être aussi le réseautage si c'est quelque chose qui nous fait peur.
Là, tu me tends une perche que je vais saisir. C'est... Je peux être en train de me faire penser à une publicité super connue dont je ne citerai pas le nom, c'est « Venez comme vous êtes ». Aucune publicité du coup, mais oui, en fait, tu as mis le doigt sur un mot qui ressort beaucoup dans le partenariat avec l'IRA, c'est la co-créativité. Et c'est ce que je trouve particulièrement vertueux de la part de l'IRA, c'est de tendre la main quelque part aux entrepreneurs qui rejoignent l'IRA pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent faire émerger leur créativité, laisser libre cours à leur créativité avec bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cadre qui rassure, il y a un cadre qui porte aussi, et il y a un cadre qui donne confiance en soi. La confiance en soi est souvent une thématique qui freine les entrepreneurs et les entrepreneuses dans le développement de leurs actions, et c'est tellement dommage de passer peut-être à côté d'opportunités parce qu'on se dit « Ah, est-ce que je vais y arriver ?» Et qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'y arriveriez pas ? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir ? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action si le moteur dans votre activité, c'est vous ?
C'est vraiment... une chance de pouvoir accéder à ce dispositif. Les gars, allez-y, quoi.
Rejoignez-nous. Pour aller encore plus loin, quel est le conseil que tu donnerais justement à un entrepreneur ou à une entrepreneuse qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, donc au-delà de ce que tu viens de nous partager, ou le conseil également que tu pourrais partager aux entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité aujourd'hui ?
Se faire confiance, du coup, pour oser tester. Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose à y perdre, donc faut essayer votre idée. Être bien accompagné, vous avez certainement une BGE à proximité de chez vous, donc profitez de la BGE qui va vous aider à structurer et tenir compte des retours qu'on vous fait. Vous pouvez les structurer aussi, structurer la demande de retour pour qu'elle soit la plus positive possible, mais qu'elle vous permette justement de retravailler sur ce que vous avez fait pour créer quelque chose qui correspond vraiment aux attentes de vos clients potentiels.
Est-ce qu'il te semblerait pertinent peut-être aussi de suggérer aux auditeurs d'observer ce qui se passe autour de soi et de s'observer soi-même ?
Moi, ce qui me semble pertinent, c'est de laisser la porte ouverte aux opportunités. En fait. Ouvrir ses chakras.
Ouais.
non, mais sans blague, c'est rester ouvert, quoi, parce que finalement, il y a des fois, il y a des opportunités qui passent. Et si on n'y fait pas attention, ben voilà, elles ne font que passer. Mais parfois, hop, on peut saisir une opportunité, quelque chose, ou juste avoir une idée fugace qui passe comme ça. Et cette idée-là, ça va peut-être être la bonne idée à suivre. Ouais, restez ouvert. Et s'il y a quelque chose qui se présente à vous, mais essayez, il y a vraiment pas grand-chose à craindre, quoi. Soit il se passe rien, ou soit il y a un bon résultat derrière. Donc, c'est tout bénef, quoi.
Au pire, effectivement, on en tire une expérience. La vie est un apprentissage permanent, que ce soit la vie entrepreneuriale, la vie personnelle. Et au pire, on fera mieux la prochaine fois.
C'est exactement ça.
Après tout ce que tu viens de nous partager, Amélie, je ne sais pas vous, auditeurs, mais en tout cas, moi, à mon niveau, j'y vois déjà beaucoup plus clair par rapport au syndrome de l'imposteur et aux leviers clés pour pouvoir le désamorcer et on va dire, ne pas... pas le bannir de sa vie professionnelle, mais apprendre à vivre avec ce syndrome de l'imposteur. On peut être conscient ou pas d'être confronté au syndrome de l'imposteur, mais déjà quand on en a conscience et qu'on connaît les moyens pour pouvoir le désamorcer quand c'est nécessaire et apprendre à vivre avec à d'autres moments, c'est déjà un progrès colossal. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie ?
en tout cas, me concernant, il est toujours présent, mais j'arrive à le faire taire un petit peu de temps en temps. Et c'est vraiment en passant à l'action que je pense on arrive à le faire baisser d'un ton, ce syndrome de l'imposteur.
On coupe le son. Et est-ce que tu penses que pour ça, il faudrait passer par la phase d'acceptation ?
D'arriver à capter le fait qu'on est en train de flipper parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui est en train de frapper à la porte. Du coup, on se dit, ok, tu veux me faire flipper, c'est ça. Hein. Eh ben, écoute mon gars, tu vas te taire, on va essayer, puis on en reparle après.
Et pour vous rassurer, ça n'est absolument pas une névrose, c'est absolument pas un problème, c'est juste le fonctionnement de l'humain. Dans toute sa splendeur, dans toute sa complexité, l'humain est un monde de complexité à lui-même. Et à partir du moment où on en a conscience et où on se dit, voilà, d'accord, je suis comme ça, aujourd'hui je fais les choses comme ça, j'ai envie demain de les faire comme ça, pour arriver à cette transformation, il faut que je passe par cette phase. Et pour ça, avoir conscience qu'on passe par le syndrome de l'imposteur, qu'il est présent dans notre vie, et l'accepter, on peut considérer que c'est avancer.
Ah bah tout à fait. C'est une grande avancée de prendre conscience de ce qui nous perturbe dans notre action. Ouais, c'est ça. La prise de conscience, ça permet d'aller plus loin. Ouais, parce que si on n'a pas conscience de quelque chose, on peut pas lutter contre, pas le désamorcer. Donc oui, c'est primordial.
Amélie, tu réveilles la coach professionnelle en devenir qui est en moi, et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est quelque chose que je vais transmettre et que je transmets déjà. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience pour avancer.
Ouais. Ah, tu vois, je vais aussi rajouter un slash coach non officiel pour moi, alors.
Je te remercie, Amélie, pour tout ce que tu viens de nous partager, pour ces points de réflexion, ces éclaircissements, peut-être pour certains, en tout cas, c'est ce qu'on espère, des prises de conscience bienveillantes surtout. Être bienveillant avec soi pour réussir à dépasser ses freins, à dépasser ses peurs et se dire, c'est ok, j'y vais, je me lance et on verra ce que ça va donner. Mais quoi qu'il arrive, je pourrais au moins dire que je l'ai fait. Et je les ferai à 100%, même à 110%, j'ai envie de dire.
Et moi, je te remercie beaucoup, Adriana, de m'avoir fait participer à cet épisode de podcast. Et ben, comme ça, du coup, j'ai la version de l'autre côté du micro. D'habitude, moi, j'ai que les écouteurs. Et puis là, j'ai un micro. Ben voilà, ça me permet de voir en vrai ce que ça fait pour un podcasteur.
C'est quoi ton feedback par rapport à ce moment qu'on vient de passer toutes les deux ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Justement, je me suis beaucoup amusée. Donc, ça, c'est essentiel pour moi. Il faut que je m'amuse quand je fais quelque chose. Donc, je suis super contente. Et voilà, c'est super sympa. Si vous êtes invité à participer au podcast d'Adriana, allez-y, c'est vraiment sympa.
Et de Lyra. Et justement, moi, j'ai envie de te lancer un challenge suite à ce podcast. J'aimerais qu'on se rencontre en vrai, parce que du coup, on est actuellement à distance l'une de l'autre. Et comme tu le sais, hein, moi, je vais revenir encore une fois sur ce mot que je rabâche de façon régulière, c'est l'humain. Et la place que l'humain prend dans mon activité et dans ma vie de façon générale. Et ouais, j'aimerais vraiment te rencontrer en présentiel. En gros, c'est, on va dire, un challenge de passage à l'action pour qu'on puisse interagir ensemble lors de l'un des prochains événements Lyra, dans un périmètre géographique qui peut nous convenir à toutes les deux.
Tu veux vraiment me faire sortir de chez moi, hein?
Oui.
Je veux faire sortir l'ours de sa grotte, mais...
Rejoignons-nous.
Ouais, c'est dans le domaine du possible. On va bien trouver une solution.
Merci encore pour ta venue sur Plumania en co-création avec Lyra, et je te dis à très bientôt, Amélie.
À bientôt, Adriana.
Vous souhaitez en savoir plus sur Amélie et découvrir plus en détail ses prestations et accompagnements? Je vous glisse dans le descriptif de cet épisode toutes les informations pour la retrouver sur LinkedIn et Facebook.
Cet épisode vous a plu? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.